dans un passage situé vers la fin du méridien, Paul Celan, reprenant un slogan attribué à Louis-Sébastien Mercier, le slogan « Élargissez l'art », que Mercier, cet admirateur de Shakespeare, opposait au classicisme français, lui oppose à son tour le mot d'ordre suivant. Die Kunst erweitern? Nein. Sondern geh mit der Kunst in deiner allereigensten Enge und setze dich frei. Élargir l'art? Non pas. Mais va avec l'art au plus étroit de toi-même et rends-toi libre. J'ai traduit par les mots au plus étroit de toi-même l'allemand in deiner allereigensten Enge. Enge, c'est l'étroitesse. Eng führen, c'est mener quelque chose à travers cette étroitesse. Le verbe en allemand s'accompagne aussi d'un substantif, Engführung, qui est donc le fait de mener quelque chose à travers l'étroitesse. Mais Engführung, en plus de son sens littéral, est aussi un terme technique du vocabulaire musical, où il désigne la dernière partie d'une fugue, dans laquelle deux ou plusieurs voix sont reprises en contrepoint, de telle sorte qu'à l'instar d'un canon, un thème est repris avant que les autres thèmes n'aient été menés à leur terme. Engführung est aussi le titre du grand poème qui clôt le troisième recueil de Celan, Sprachkette, grille de parole. Dans le langage musical français, on parle d'une strette. Strette est d'ailleurs le nom que Celan a lui-même choisi pour intituler le volume de traduction de ses poèmes. À l'époque, c'était le premier qu'André Dubuchet avait dirigé et fait paraître au Mercure de France. Ce que j'aimerais développer aujourd'hui devant vous, ce sont les raisons pour lesquelles cette notion, à laquelle il a donc lui-même souhaité donner du relief, peut servir à mettre en évidence certaines caractéristiques essentielles de sa poésie. Si vous prenez en main le recueil intitulé Sprachkette, vous remarquerez peut-être, à propos de son poème conclusif, Engführung, qu'il présente une particularité éditoriale. Alors que les cinq premières sections du recueil sont précédées chacune d'un chiffre romain, ce dernier poème est précédé par son seul titre. Ce privilège, Engführung, ne le partage qu'avec un seul autre poème de toute l'œuvre celanienne, Todesfugue, Fugue de la mort, qui constitue à lui seul la seconde section de Mon und Gedächtnis, Pavot et mémoire, le premier recueil. La coïncidence, loin d'être fortuite, a un sens, que confirme l'emploi dans les deux textes de termes empruntés au vocabulaire musical et d'une manière plus précise encore au vocabulaire relatif à une fugue. Ce sens, comme nous allons le voir, est celui d'une critique. Engführung est, à sa manière, une critique et par là un dépassement de Todesfugue. Pour comprendre cette critique, il faut revenir un peu en arrière. Todesfugue a sans doute été écrit au mois de mai 1945 à Bucarest. Le poème a paru pour la première fois dans la traduction roumaine de Petre Solomon, à laquelle il est certain, l'ami de Celan, et à laquelle il est certain que Celan a collaboré, sous le titre roumain de Tangul Morti, Tango de la mort. Et cela au mois de mai 1945 dans la revue Contemporanul. Il constituait la dernière section autonome, elle aussi, du volume Der Sand aus den Urnen, qui parut à Vienne en 1948, peu après le départ de son auteur pour Paris, mais que Celan fit aussitôt retirer du commerce en raison des trop nombreuses fautes d'impression qu'il contenait. C'est la femme de l'artiste surréaliste Edgar Genet, dont deux lithographies accompagnaient l'original, qui avait été chargée de relire les épreuves et qui s'acquitta donc si mal de sa tâche. Todesfuge reparut donc dans Mon und Gedächtnis en 1952, et c'est incontestablement ce poème qui, très vite, assura la célébrité de son auteur. Alors, avant de voir les ambiguïtés qui affectèrent par la suite ce succès, il convient d'abord de comprendre les raisons de celui-ci. Le poème, donc Todesfuge, est écrit à la première personne du pluriel. Le nous qui parle ici est celui des Juifs incarcérés dans les camps d'extermination, promis à la mort ou même déjà morts. Ce sont donc univoquement les victimes qui parlent dans une parole doublement contrainte, puisque d'une part, elle ne procède que de la mort, et que d'autre part, elle est prise dans une sorte de machinerie infernale que la forme rend sensible à travers un style où la répétition est devenue la figure dominante. Voici la première strophe. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken sie abends, wir trinken sie mittags und morgens, wir trinken sie nachts, wir trinken und trinken, wir schaufeln ein Grab in den Lüften, da liegt man nicht eng. Ein Mann wohnt im Haus, der spielt mit den Schlangen, der schreibt, wenn es dunkelt, nach Deutschland, dann goldenes Haar, Margarete. Er schreibt es und tritt vor das Haus und es blitzen die Sterne. Er pfeift seine Rüden herbei, er pfeift seine Juden hervor, lässt schaufeln ein Grab in der Erde. Er befiehlt uns, spielt auf nun zum Tanz. Lait noir de l'aube, nous le buvons dans le soir, nous le buvons le matin, le midi, nous le buvons dans la nuit, nous buvons et buvons, nous creusons une tombe dans l'air, nul n'y est à l'étroit. Un homme habite la maison, il joue avec les serpents, il écrit vers le soir en Allemagne, tes chevelures d'or, Marguerite. Il l'écrit et passe devant la maison et brille les étoiles. Il siffle ses dogues, il siffle ses juifs. Creusez donc une tombe dans la terre. Il nous ordonne, jouez donc pour la danse maintenant. Le poème commence sur l'image, débute sur l'image d'une réalité paradoxale, le lait noir, devenu réalité ultime pour les locuteurs qui sont contraints à le boire tout au long d'une durée qui semble à la fois ininterrompue et articulée sur la succession des instances horaires qui délimitent le cours des journées, soir, midi, matin, nuit. Cette contrainte, si sensible dans la réduplication du verbe trinken und trinken, nous buvons et buvons, se poursuivra jusqu'à la fin, mais non sans variation. D'une part, dès la seconde strophe et jusqu'à la quatrième, qui est la dernière, le « nous » s'adressera à ce lait noir. « Schwarze Milch der Frühe, wir trinken dich, nachts », au lieu de parler de lui. Et d'autre part, le poème permutera la succession des instances temporelles. On aura dans la deuxième strophe nous te buvons la nuit, nous te buvons le matin, le midi, nous te buvons le soir. Dans la troisième, on aura nous te buvons la nuit, nous te buvons le midi et le matin, nous te buvons le soir. Dans la dernière, nous te buvons la nuit, nous te buvons le midi, nous te buvons le soir et le matin, ce qui est, comme vous le voyez, le renversement de l'ordre initial. Ajoutons que dans cette dernière strophe, la succession des trinken est interrompue par la présence intercalée du syntagme le plus central du texte. L'action de boire constitue donc la trame du poème entier, et cela d'une manière telle que l'on sent bien qu'elle n'est pas limitée au seul cadre du texte, mais qu'elle le précède et qu'elle le suit. La mort est déjà là, elle ne cesse pas. L'emploi obstiné du présent verbal actualise sa présence irrécusable. À cette entame sur le trinken fait suite une action concomitante, celle de creuser une tombe dans l'air, suivie d'une affirmation qui est à comprendre comme un effet de polyphonie. On n'y est pas à l'étroit. C'est bien sûr le capot qui affirme cyniquement cela. Mais le fait que le syntagme soit placé sans transition après le « nous creusons une tombe dans les airs » lui donne l'impression d'être une affirmation de ceux qui creusent. Cette impression n'est pas fortuite. Elle trahit la contrainte sous laquelle travaillent ceux qui creusent. La seconde partie de la strophe introduit le contrepoint du « nous » ou, si l'on préfère, introduit son ennemi sous la forme, sous la figure de cet homme qui habite la maison, joue avec les serpents et, le soir venu, écrit en Allemagne « Dein goldenes Haar, Marguerite »« Ta chevelure d'or, Marguerite ». Il y a, comme Celan le dira dans une lettre à Walter Jens, quelque chose de l'ordre de l'archétype dans cet homme qui, d'une part, loge dans la maison, les Juifs logent donc dehors, joue avec les serpents que peuvent devenir dans cet ordre, je suis toujours le commentaire du poète, les tresses de la chevelure blonde de Marguerite, et écrit le soir en Allemagne. Le contraste est absolu entre la musicalité jouée d'un vers comme « Der schreibt, wenn es dunkelt nach Deutschland, dein goldenes Haar, Marguerite » qui fait entendre, tant au niveau du rythme qu'à celui des expressions, une sorte de parodie de posture romantique allemande, et la double action prêtée à cet homme qui siffle ses dogs comme il siffle ses juifs. L'assonance « Juden, dog, Juden, juif » ressort d'autant plus fortement ici et de façon d'autant plus choquante que les deux compléments d'objet direct sont commandés par le même verbe, « abpfeift ». Le contraste intérieur-extérieur ne saurait être plus fort. À la lettre d'amour écrite à Marguerite pour lui parler de ses cheveux d'or, s'opposent les ordres donnés aux Juifs de creuser une tombe et de jouer pour la danse. Cette structure en contraste est aussi sensible sur le plan des sonorités. Celan, d'une façon extrêmement rigoureuse, a réservé la syllabe « ai » à travers tout le poème à cet homme, qu'il s'agisse de ses actions ou des mots dont il se sert. On a ainsi « der schreibt, er pfeift » et dans les strophes suivantes, ins Erdreich, l'occurrence est encore plus frappante puisqu'elle contient le signifiant Reich, ergreift, weiter, ein Meister, streicht, steigt, bleierner. Ei dénote ou concentre sur le plan phonématique la violence dont cet homme est l'instrument. Les trois strophes qui suivent sont construites sur le même principe de composition que je viens d'exposer, mais en introduisant des variantes. Variantes temporelles d'abord. J'ai déjà fait allusion dans l'ordre de succession des périodes pendant lesquelles le nous boit le lait noir de l'aube. Variantes structurelles ensuite, avec notamment l'introduction d'un contraste essentiel. L'homme qui joue avec les serpents et qui écrit en Allemagne évoquait « Dein goldenes Haar, Marguerite »,« la chevelure d'or Marguerite. Lorsque le syntagme réapparaît dans la deuxième strophe, il est suivi immédiatement par Dein aschenes Haar, Sulamit, ta chevelure de cendre, Sulamit. Sulamit, c'est la fiancée du Cantique des Cantiques, c'est la juive, comme Marguerite est l'allemande. Ce n'est évidemment pas l'homme dans la maison qui dit ces mots, c'est le nous, ou si l'on préfère, par un effet de superposition, le poète. La cendre s'oppose à l'or, comme la mort à la vie. Les Juifs ne peuvent s'adresser qu'à une morte. La juxtaposition des deux syntagmes donne à penser que c'est le fait d'écrire, de pouvoir écrire ou d'avoir écrit « Dein goldenes Haar, Margarete », syntagme, encore une fois, qu'il faut entendre comme une citation empruntée à la tradition lyrique allemande, qui a eu pour effet « Dein aschenes Haar, Sulamit ». Pour le dire en d'autres termes, ce n'est pas simplement que Marguerite vit alors que Sulamit ne vit plus qu'il faut comprendre. C'est que c'est la poésie allemande dont le premier syntagme est comme un symbole qui est responsable de la mort de Sulamit. L'incrimination ne porte pas seulement sur le régime politique du pays, mais aussi sur sa tradition poétique. La troisième strophe introduit quant à elle un passage essentiel. Après avoir appelé le lait noir, l'homme qui loge dans la maison et qui joue avec les serpents, ainsi que les deux figures de femmes, cette strophe se poursuit ainsi. Ruft, spielt süßer den Tod. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Ruft, streicht dunkler die Geigen, dann steigt ihr als Rauch in die Luft. Dann habt ihr ein Grab in den Wolken, da liegt man nicht eng. Il crie, jouez la mort de façon plus suave. La mort est un maître venu d'Allemagne. Il crie, raclez vos violons de façon plus sombre, ainsi vous monterez dans l'air en fumée, ainsi vous aurez une tombe dans les nues. Nul n'y est à l'étroit. Spielt süßer den Tod. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Jouez plus suavement la mort. La mort est un maître venu d'Allemagne. Il n'y a pas de vers plus essentiel, il n'y a pas de vers plus profond dans toute la poésie germanophone d'après-guerre que celui-là. Ce vers est un vers génial. Il est génial non seulement parce qu'il ressaisit dans la formule la plus dense, la plus concentrée possible, toute la Shoah, mais parce qu'il expose aussi la responsabilité de la culture allemande dans la création de la Shoah. Certes, l'union paradoxale de la sentimentalité et de la cruauté avait déjà été dénoncée par d'autres poètes, et cela même avant la Shoah. Dans Schinderhannes, un poème d'alcool de 1913 sur lequel Martine Broda avait jadis à juste titre attiré l'attention, Apollinaire concluait en ce sens d'une manière vraiment prémonitoire, dont Celan se souviendra au moment de la Niemandsrose. Cette brigande, je cite un passage de Schinderhannes, cette brigande est bientôt saoule. Et veut Hannes, qui n'en veut pas. Pas d'amour maintenant, ma poule. Sers-nous un bon petit repas. Il faut ce soir que j'assassine ce riche juif au bord du Rhin. Au clair des torches de résine, la fleur de mai, c'est le florin. On mange alors, toute la bande pète et rit pendant le dîner, puis s'attendrit à l'allemande avant d'aller assassiner. Chez Celan, les paroles du capot prennent le relais de ces injonctions des deux premières strophes dans lesquelles il ordonnait aux Juifs de chanter et de jouer pour la danse. Ici, l'injonction vise à jouer la mort de manière plus suave. Je traduis par plus suave le comparatif Zus, dans lequel il n'est pas exclu, mais ça n'est qu'une hypothèse, que résonne le patronyme du juif Zus, le film nazi de Veit Harlan. De la jeune fille et la mort à la Liebestod de la fin du Tristan, la mort, c'est être infiniment suave dans la musique allemande. Le vers de Celan ne se borne pas à ce constat. Après tout, la mort n'est pas moins suave à la fin de Didon et Énée de Purcell ou d'un opéra de Puccini. Ce qu'il met en évidence, toutefois, c'est l'extraordinaire ambiguïté qui fait que cette sentimentalité est comme l'avers d'une pièce dont le revers serait le deuxième hémistiche. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland. La mort est un maître venu d'Allemagne. Le maître est à la fois le maestro, le compositeur ou le chef d'orchestre, et le SS. Il est venu d'Allemagne à la fois comme le représentant de cette musique et comme celui qui apporte la mort aux Juifs de la Bukovine. Du coup, la musique allemande devient-elle elle-même porteuse de mort, ou pour le dire autrement, révèle-t-elle la responsabilité de la culture musicale, mais l'analyse vaut pour les autres formes artistiques ou littéraires, dans le processus de la destruction. Que ce vers soit le vers central du poème, on peut le voir sans doute au fait que dans la dernière strophe, le syntagme revient à trois reprises, qu'il conclut même cette quatrième strophe avant que le poème ne s'achève par la superposition des deux chevelures. Entre-temps, par un glissement subtil rendu possible par la juxtaposition du maître et du capot qui, comme nous le savons depuis la deuxième strophe, a les yeux bleus, ce dernier sera-t-il devenu le maître ? Schwarze Milch der Frühe, wir trinken dich nachts, wir trinken dich mittags, der Tod ist ein Meister aus Deutschland, wir trinken dich abends und morgens, wir trinken und trinken, der Tod ist ein Meister aus Deutschland, sein Auge ist blau, er trifft dich mit bleierner Kugel, er trifft dich genau. Ein Mann wohnt im Haus, dein goldenes Haar, Margarete. Er hetzt seine Rüden auf uns und schenkt uns ein Grab in der Luft. Er spielt mit den Schlangen und träumet, der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Dein goldenes Haar, Margarete, dein aschenes Haar, Sulamit. Les Noirs de l'Aube. Nous te buvons dans la nuit, nous te buvons le midi, la mort est un maître venu d'Allemagne, nous te buvons dans le soir, le matin, nous buvons et buvons, la mort est un maître venu d'Allemagne, son œil est bleu, il te frappe d'une balle de plomb, il te frappe sans faillir, un homme habite la maison, ta chevelure d'or, Marguerite, il lâche ses dogues contre nous, il nous offre une tombe dans l'air, il joue avec les serpents et rêve, la mort est un maître venu d'Allemagne. Ta chevelure d'or, Marguerite, ta chevelure de cendre, Sulamit. Entre le vers 24, où il apparaît pour la première fois, et le dernier vers, le vers 36, le syntagme, la mort est un maître venu d'Allemagne, sera donc intervenu quatre fois. Notons qu'il y a là, à strictement parler, un effet de strette qui a pour effet de rendre la mort toujours plus sensible, toujours plus présente, dans une sorte d'accélération du motif dont le poème fait entendre l'impitoyable destructivité. Devenu le théâtre de celle-ci, le poème est en même temps le cénotaphe des victimes. Comme Celan écrira plus tard à Ingeborg Bachmann, « Auch meine Mutter hat nur dieses Grab ». Todesfuge était dans son esprit un tombeau, le seul tombeau même de sa mère. Il ne fait aucun doute que c'est ce texte qui a, d'un seul coup, assuré la renommée de son auteur. Dans cette Allemagne où le syntagme « Der Tod ist ein Meister aus Deutschland » est devenu depuis à tel point proverbial, qu'on a pu le voir il y a quelques années, inscrit sur une banderole brandie par des adversaires d'une centrale nucléaire. Tous les écoliers de la République fédérale l'ont appris. Et c'est la lecture de ce poème qui a ouvert la session du Bundestag commémorant le 50e anniversaire de la nuit de cristal. Pour autant, dès la fin des années 1950, des voix s'élèvent dans le domaine de la critique de poésie pour reprocher à Tselin d'avoir musicalisé la mort. Il faut bien comprendre ce reproche. Les poètes allemands d'après 1945 ont pensé, par réaction à ce qui s'était passé, que seule pouvait être encore légitime une poésie qui, déniant la beauté qui était traditionnellement l'apanage de la parole poétique ou des arts en général, se déroba à celle-ci, et qu'il leur fallait donc, sinon prosaïser, du moins élire pour l'objet de leur poème des objets qui fussent à l'opposé de ce qui était traditionnellement le beau. Ce faisant, disons, dans le sillage, disons, d'un Bertolt Brecht, il témoignait bien d'une conscience historique du fait d'écrire. Mais en profondeur, si désireux qu'il fût d'une sorte de correction politique, il méconnaissait ou sous-estimait la responsabilité de la langue allemande dans le mécanisme de la destruction. Tselan, comme nous l'avons vu à partir de son rapport si particulier à la langue, n'avait pas a priori à s'orienter vers ce qu'on nomma plus tard « die nicht mehr schönen Künste », ces arts qui ne sont plus beaux. Par contre, il avait à retourner la langue contre elle-même, dans un geste où, de manière paradoxale, la parodie ou l'inversion critique n'avait pas comme but premier de remettre en cause la catégorie du beau. Si l'on prend en compte l'ensemble des poèmes de Pavots et Mémoires, où figure la Todesfuge, on se trouve ainsi devant le paradoxe d'une poésie qui est à la fois critique et harmonique, c'est-à-dire dans laquelle l'harmonie sonore est mise au service de ce que j'ai essayé de définir il y a deux semaines comme contre-parole. Celle-ci, parce qu'elle se dissimule tantôt sous l'ironie, tantôt sous un certain hermétisme, peut passer toutefois inaperçue ou être mal interprétée, et peut donc donner prise à une critique qui, méconnaissant ses présupposés véritables, l'accusera, à contresens, d'un excès de musicalité. L'accusation était peut-être d'autant plus aisée à l'époque que, dans ses lectures publiques, Tselan lisait avec une émotion, née bien évidemment du sens de ce qu'il avait à dire, qu'on pouvait toutefois confondre avec un pathos que les Allemands, soucieux de se démarquer de l'époque hitlérienne, tendaient à assimiler à celle-ci. Que de tels reproches soient allés main dans la main avec une opinion qui, sous couvert de rigueur politique, ait néanmoins dissimulé une forme renouvelée d'antisémitisme, lui-même l'a pensé et s'en est amèrement plaint à l'époque de l'affaire Gol. Tselan, qui plus que tout autre avait entrepris une refondation de la poésie allemande, va donc se trouver paradoxalement accusé de compromission esthétique. Ayant médité la contradiction, il en déduira une orientation nouvelle de sa parole. Cette réorientation s'exprime déjà dans le second recueil, Von Schwelle zu Schwelle, où la part croissante d'une réflexivité manifeste interdit déjà d'isoler la dimension musicale. Davantage, il va bientôt donner une formulation théorique précise à cette question, dans un très court texte offert en réponse à une enquête de la librairie Flinker à Paris en 1958. Je traduis. La poésie allemande emprunte, me semble-t-il, d'autres chemins que la poésie française. La mémoire hantée par un passé lugubre, environnée des situations les plus douteuses, elle ne peut plus, si enracinée qu'elle soit dans la tradition, parler le langage que mainte oreille semble encore attendre d'elle. Son langage est plus sobre, plus terre à terre. Elle se méfie du beau, elle essaye d'être vraie. Ce langage, Si je puis chercher une expression adéquate dans le domaine visuel, tout en gardant à l'esprit la polychromie de ce qui paraît actuel, est plus gris. Il cherche, entre autres, à situer sa musicalité dans un lieu qui n'ait plus rien en commun avec cette harmonie qui continuait à se faire entendre en même temps et à côté des heures les plus terribles. Cette recherche d'un langage plus gris, einer graueren Sprache, va décider désormais de toute l'orientation de sa poésie. Aucun texte, pourtant, ne le donne à comprendre de manière plus décisive que Engführung, que Streit, le dernier poème de Sprachgitte. Engführung a la forme d'un cercle. Ses premiers mots sont, à deux détails près, les mêmes que ses derniers. Voici les premiers mots. Verbracht ins Gelände mit der untrüglichen Spur, Gras, auseinandergeschrieben. Voici maintenant ces derniers mots. Verbracht ins Gelände mit der untrüglichen Spur, Gras, Gras, auseinandergeschrieben. Comme vous le voyez, la différence majeure entre les deux groupes de vers est leur disposition graphique, à quoi s'ajoute que, dans le deuxième cas, le mot « grâce », « herbe », est répété. Cette différence de disposition recouvre une différence de rythme. Lorsqu'ils reviennent, à la fin, les mots de l'incipit doivent être prononcés d'une manière qui les détache davantage les uns des autres, d'une manière plus lente, donc. C'est la conséquence du fait qu'ils ont été engführt, qu'ils ont passé par la strette. Si je mets en relief ce qui ne vous paraît peut-être qu'un détail, c'est pour confirmer d'emblée une remarque essentielle de Peter Sondy dans son étude Lecture de Strette, selon laquelle ce poème ne se contente pas de désigner une strette, mais incarne celle-ci. Pour dire la même chose, fait subir au langage le mouvement d'une Engführung, le mouvement d'une strette. Ces mots sont d'emblée ceux d'un déport, déporté dans l'étendue avec la trace impossible à confondre. Herbe, désécrite. Le poème s'ouvre et se referme sur le mouvement d'une déportation vers le Gelände, l'étendue ou le terrain que marque la trace impossible à confondre. Spur, c'est à la fois la trace, le vestige, et aussi la voie au sens du rail. L'herbe qui pousse désormais entre les voies est l'herbe d'Auschwitz. Le poème refait donc à sa manière le chemin de la déportation. Il revisite cette herbe qui a poussé dans l'intervalle sur cet espace désormais désert. Une drôle d'herbe a poussé et recouvert la terre usée par le piétinement des concentrationnaires, écrit Jean Kerol dans Nuit et brouillard, dans le script du film de René que Celan traduisit au moment même où il composait Engführung. Lorsque ces mots reviennent à la fin du texte, le lecteur a donc à comprendre que le poème a reparcouru l'expérience de ceux qui furent jadis déportés dans ce Gelände. La forme circulaire du poème a pour sens de signaler que le parcours a été dûment effectué, qu'il a traversé la mort qui subsiste ici sur le mode de cette untrügliche Spur, de cette trace impossible à confondre, que ne recouvre pas l'herbe de l'oubli. Cette herbe, Celan l'a dit d'un mot presque impossible à traduire, auseinandergeschrieben. Auseinander, c'est une préposition qui marque l'action par laquelle on démonte, on désassemble quelque chose. Dire auseinandergeschrieben, c'est donc dire que c'est par l'écriture que l'on a procédé à ce désassemblage. par un effet d'autoréflexivité initiale, le poème signifie donc que le parcours qu'il entame, qui est aussi un parcours d'écriture, va consister à désassembler l'herbe qui est repoussée à Auschwitz. Le constat prend vite l'allure d'une auto-injonction. Relisons ce début et les vers qui le suivent. Verbracht ins Gelände mit der untrüglichen Spur, Gras auseinandergeschrieben, die Steine weiß mit den Schatten der Halme, lies nicht mehr, schau, schau nicht mehr, geh. Déporté dans l'étendue, avec la trace impossible à confondre, herbe, désécrite, blanche et pierre avec les ombres des brins. Cesse de lire, regarde, cesse de regarder, va. C'est à lui-même que le jeu s'adresse. C'est lui-même qui l'enjoint de regarder et surtout d'aller, comprenant, de scruter sans peur et d'effectuer le chemin de ce parcours. Chemin de mort aussi bien, comme le dénotent les pierres blanches liées aux ombres des brins d'herbe et qui rappellent les pierres qu'on dépose sur les tombes juives. À propos de tombes, Joachim Zeng a d'ailleurs observé que le mot « grâce », herbe, était le palindrome de Sarg, cercueil. Désécrire l'herbe, c'est donc, si l'on suit sa remarque, désécrire aussi le cercueil d'une mémoire trop prompte à laisser l'herbe de l'oubli recouvrir ce qui s'est passé. Le poème sera le renversement d'un tel oubli, sera le tête-à-tête obstiné avec la mémoire. Dans la mesure où son trajet consiste à revivre l'expérience qu'il évoque, on comprend que le sens de la strette soit celui d'un passage par la douleur d'un resserrement, ou pour mieux dire, d'une angoisse au sens étymologique de ce mot, qui dérive du latin angustia, qui signifie lieu resserré. S'obliger à cette strette, c'est s'obliger humainement à cette angoisse. Mais la strette ne concerne pas seulement l'expérience, elle affecte aussi le langage. Todesfuge se comprenait, nous l'avons vu, comme le chant des morts, le chant de ceux qui, contraints par ce maître venu d'Allemagne, creusaient leur tombe dans les airs aux accents d'une musique dont l'harmonie obligée traduisait la nature sadiquement coercitive de leur bourreau. La discursivité de ce chant était soulignée à la fois par le caractère itératif des syntagmes et par une régularité rythmique que renforçait encore l'usage des assonances, voire l'usage de la rime. Dans Engführung, une telle discursivité a laissé la place à une diction dont l'austérité a le sens d'une ascèse. Après le mouvement initial, dont nous avons lu le début, le poème évoque dans ses deuxième et troisième parties le lieu quasi sans nom où les parents de l'auteur ont été assassinés, puis il se poursuit ainsi. Bin es noch immer. Jahre, Jahre, Jahre. Ein Finger tastet hinab und hinan, tastet umher, Nahtstellen. Fühlbar. Hier klafft es weit auseinander, hier wuchs es wieder zusammen. Wer deckte es zu? Deckte es zu. Wer kam? Kam. Kam ein Wort, kam. Kam durch die Nacht, wollt leuchten, wollt leuchten. Asche. Asche, Asche, Nacht, Nacht und Nacht, zum Auge, zum Feuchten. Le suit toujours, année, 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 un doigt tâte vers le bas, vers le haut, tâte autour de soi, point de suture, sensible ici, cela s'écarte ici, cela s'est resuturé. Qui l'a recouvert ? L'a recouvert ? Qui ? Vingt, vingt, vingt un mot, vingt, vingt par la nuit, voulu luire, voulu luire. Cendre, 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 nuit, nuit et nuit, va vers l'œil, l'œil humide. Comme vous l'aurez noté, le style a changé en profondeur. La diction se fonde désormais soit sur des termes isolés, substantifs ou verbes, répétés à plusieurs reprises, soit sur de très brèves séquences, substantifs, verbes ou auxiliaires, verbes. L'unité est souvent le mot, dont l'itération produit l'effet d'un pas à travers un territoire qui est aussi bien spatial que temporel. Il est question des années, comprenant sans doute des années qui se sont écoulées depuis la mort des parents. Pas en avant, progression difficile, comme l'attestent les nombreuses réduplications des termes, dont la raison d'être est rythmique autant que sémantique, comme si les éléments nommés ne parvenaient à leur identité qu'à force d'être réaffirmés contre le néant, ce que corrobore de son côté le plan des sonorités, sur lequel on constate une impressionnante prédominance de la voyelle A, à laquelle sa présence dans des verbes comme tastet ou klaft ou des substantifs comme asche und nacht prête incontestablement une couleur sombre associée à la mort. Comparé à la partie précédente, tout entière régie par le pronom personnel de la première personne, ich, celle-ci atteste une saisissante réduction ou euphémisation du moi. C'est un doigt, pas même une main, qui tâte le tissu des aînés dont les points de suture sont sensibles. De même, le mot qui vient à travers la nuit et qui veut luire, vient-il, semble-t-il, tout seul. On peut présumer que ce mot est le mot H, cendre, qui ouvre la strophe qui suit. Dans la mesure où la progression du texte se comprend aussi comme une progression réflexive, c'est-à-dire qui réfléchirait sa propre démarche, la réduction du discours à ce mode d'avance quasi syllabique traduit, d'une manière on ne peut plus littérale, le sens de ce que Celan entend par le titre. Mener son poème par la strette, cela veut dire ici le soumettre à une ascèse comprise comme existentielle autant que poétique, à un dépouillement qui se veut tant celui de la forme que celui de ses thèmes. Que ceux-ci soient les mêmes que ceux de la Todesfuge n'étonne pas, mais leur reprise ne s'effectue que sur le mode d'un étrécissement qui signe leur condition de survie. Aussi bien, l'amplitude avec laquelle ces thèmes sont-ils repris donne-t-elle au second poème une toute autre dimension. Là où le poème de Mohn und Gedächtnis parlait de destruction des Juifs des camps, celui de Sprachgitter n'envisage rien de moins que celle de l'ensemble des humains, à laquelle Celan fait référence par le biais d'une allusion à l'arme atomique, fortement d'actualité durant cette année 1958, qui voit naître son poème. D'une certaine manière, on peut même dire que le poème se fait le théâtre verbal d'une explosion nucléaire qui culmine dans les vers « Und die Welt ein tausend Kristall schoss an ». Schoss an, et le monde à un mille cristal fusa, fusa. À tout le moins, ces vers marquent-ils un renversement dans la démarche du texte qui, à partir de ce point-là, va remonter, si l'on peut dire, vers, non pas le jour, mais du moins une grisaille diurne qui contraste avec le noir de la nuit au cours de laquelle il a cheminé jusque-là. Cette remontée, elle couvre les deux dernières parties, est explicitement pensé comme une manière de renouer avec ce qui avait été perdu, ou du moins comme une manière de se rattacher à ce qui existait avant. Écoutons tout le mouvement final. In der Eulenflucht, beim versteinerten Aussatz, bei unseren geflohenen Händen, in der jüngsten Verwerfung, überm Kugelfang, an der verschütteten Mauer, sichtbar aufs Neue, die Rillen, die Chöre damals, die Psalmen, Ho, Hosianna, also stehen noch Tempel, ein Stern hat wohl noch Licht, nichts, nichts ist verloren, Hosianna. In der Eulenflucht hier, die Gespräche, taggrau der Grundwasserspuren, taggrau der Grundwasserspuren, verbracht ins Gelände mit der untrüglichen Spur, Gras, Gras, auseinandergeschrieben. À l'envol du hibou, près de la lèpre devenue pierre, à nos mains enfuies, lors du dernier rejet par-dessus le pare-balles du mur éboulé, visibles à nouveau les stries, les chœurs jadis, les psaumes, Ho, Hosanna! Ainsi donc, des temples se dressent encore, une étoile a bien encore de la lumière, rien, rien n'est perdu, Hosanna! À l'envol du hibou ici, les entretiens gris-jour des traces d'eau souterraines. Gris-jour des traces d'eau souterraines. Déportés dans l'étendue. Ah, la trace impossible à confondre. Herbe, herbe, désécrite. Le poème, vous le voyez, a donc parcouru un cercle. Ce cercle part du fait d'être déporté et aboutit au fait d'être déporté dans l'étendue à la trace impossible à confondre. Cette étendue est une étendue de mort dans laquelle Celan aura eu à s'engager et à engager sa parole en la gardant attentive à cette trace inoubliable. Le cheminement aura eu la forme d'un passage par la strette, au double sens d'une ascèse intérieure, ou même morale, et d'une sorte de contraction verbale qui renonce à tous les prestiges rythmiques et sonores d'une musicalité apparente. Faut-il donc penser qu'au terme de ce cheminement, au moment où le cercle se referme, la réalité, qui a pourtant passé dans le texte par l'étape d'une longue destruction, soit réaffirmée telle qu'elle, comme le suggèrent peut-être les chœurs, les psaumes, les temples et cette étoile qui garde sa lumière? En vérité, la réponse à cette question est difficile. D'une part, le poème réaffirme bien, et de la manière la plus ferme, semble-t-il, la présence de ces temples et de la lumière probable de cette étoile. De l'autre, Celan a griffonné en marge du livre de Scholem « Les grands courants de la mystique juive » une note qui reprend les deux termes du poème, « die Rillen », « die Psalmen », en face d'un passage où Scholem parle d'un kabbaliste qui, je cite, « considéra le psautier comme un recueil de textes de la catastrophe millénaire et messianique ». Envisagé dans cette perspective, loin d'être une réaffirmation de la présence divine, les temples et la lumière de l'étoile ne seraient que les signes avant-coureurs d'une telle catastrophe. Catastrophe, c'est le sens du terme hébreu Shoah, dont la dimension messianique serait bien évidemment absente. Remarquons d'ailleurs que ces éléments, les temples, l'étoile, les psaumes ne sont pas les derniers, mais les avant-derniers du poème. Celui-ci s'achève sur la même herbe désécrite de son incipit, c'est-à-dire sur l'image du vide non rédimé du sol d'Auschwitz. La structure en cercle n'a donc pas le sens d'une élévation en forme de spirale, c'est-à-dire d'un dépassement, mais bien celui d'un rappel, celui d'une réaffirmation d'un état de choses qui est en même temps un état de mémoire. La plaie reste ouverte. Si j'emploie cette image de la plaie, c'est à dessein, dans la mesure où le recueil tout entier la convoque avec son premier poème, Stimmen, voix. Ces voix sont elles aussi disposées au long d'un texte scandé par des groupes de vers séparés par des astérisques. Du point de vue formel, Stimmen renvoie donc directement à Engführung. Dans les deux poèmes, on a 8 parties que les astérisques distinguent les unes des autres. Il ne fait aucun doute que cette disposition en miroir, en tête et en fin de volume ne soit voulue. Comme Zeng l'a montré, les poèmes des recueils de Celan sont souvent regroupés dans des cycles dont la place devient un facteur de sens. Il convient donc de prêter la plus grande attention aux correspondances entre Stimmen et Engführung, qui sont de très loin les plus longs poèmes de Sprachgitter. Dans Stimmen, la première partie commence ainsi. Stimmen, ins Grün der Wasserfläche geritzt, wenn der Eisvogel taucht, sirrt die Sekunde. Voix rayée sur le vert de la surface de l'eau, quand plonge le martin-pêcheur, la seconde vibre. La dernière partie, de son côté, consiste en ceci. Keine Stimme, ein Spätgeräusch, stundenfremd, deinen Gedanken geschenkt hier, endlich herbeigewacht, ein Fruchtblatt, augengroß, tief geritzt. Es harzt, will nicht vernarben. Nulle voix. Un bruit tardif, étranger aux heures, offert à tes pensées, ici, enfin, ici éveillé, une feuille aussi grande que l'œil, rayée en profondeur. Cela suppure, ne veut pas cicatriser. Dans la première strophe, les voix viennent cocher ou entailler la surface verte de l'eau qu'un martin-pêcheur fait vibrer de son passage. Comme le montrera la suite du poème, ces voix sont les voix de l'histoire, comprenant des victimes de l'histoire. Ce sont elles qui rayent la surface de l'eau, en daignant l'illusion que la nature puisse être intacte de ce qui s'est passé. En allemand, le nom du martin-pêcheur est Eisvogel, littéralement oiseau de glace. La glace, chez Celan, est toujours liée à la mort. Le plongeon de l'oiseau est un plongeon de mort, et c'est cela qui fait vibrer la seconde, c'est-à-dire c'est cela qui fait d'elle une contemporaine de l'histoire. On peut penser que cette interaction de l'histoire et de la nature est d'emblée pensée et exposée réflexivement dans le poème qui se continue ainsi. Was zu dir stand an jedem der Ufer, es tritt gemäht in ein anderes Bild. Ce qui s'offrait à toi sur chaque rive revient fauché dans une autre image. Ce qui s'offrait, c'était le paysage, on sait par un témoignage de Christophe Schwerin, qu'il y a là le souvenir d'une promenade à Rochefort, en Normandie, c'était le paysage avec l'oiseau. L'oiseau dont Celan savait le nom français, mais dont ils cherchèrent l'équivalent allemand une fois rentrés. Ce qui revient, fauché dans une autre image, c'est non seulement le nom allemand, mais le nom de mort. La poésie est le processus de traduction par lequel la mort s'inscrit dans la nature par le biais des voix qui hantent toute l'étendue. Dans les strophes intermédiaires, il sera question successivement des voix du chemin d'ortie, des voix trempées de nuit, des voix du gibet, des voix de la caillasse, de la voix de Jacob, puis des voix de l'intérieur de l'arche. La dernière partie reprend donc le schéma des sept parties précédentes qui commencent toutes par le mot Stimmen, voix. La sixième, il est vrai, précisait Jacob's Stimme, la voix de Jacob. En même temps, elle le varie en ce que son attaque est cette fois Keine Stimme. À l'énumération des voix qui, d'une manière ou d'une autre, ont surgi d'une mémoire de la mort, surgit le nulle voix, ou pas une voix finale. La négation s'accompagne aussitôt d'une précision. Ce qui émerge ici, ce n'est pas une voix, mais ein Spätgeräusch, un bruit tardif. Ce bruit est sans doute celui à partir duquel le poète a à écrire. Il est offert à ses pensées. Il s'éveille à lui dans cette heure tardive qu'est l'heure d'écrire. Qui plus est, ce bruit est étrangement comparé à un Fruchtblatt, pistil, qui à son tour est tiefgeritzt, profondément entaillé ou rayé. Et ce pistil suinte ou suppure, ne veut pas cicatriser. La structure circulaire du poème anticipe celle du recueil, ou en tout cas du dernier poème du recueil, Strait. Ce faisant, elle annonce ce que Celan définira l'année suivante comme un méridien, quelque chose, comme la langue, l'immatériel, et de ce sol, de terrestre, quelque chose en forme de cercle qui revient sur soi après avoir passé par les deux pôles et qui intersecte, par là, heureusement, jusqu'aux tropes. Mais si le méridien a pour propriété de lier entre elles, deux ou plusieurs époques de la vie du poète, il n'a pas pour sens d'affaiblir ou de résoudre le tragique de celle-ci. C'est pour cela que Stimmen se termine par les deux verbes qui réfutent la cicatrisation de la Fruchtblatt. Et c'est pour cela aussi que la réapparition de l'herbe désécrite à la fin de Engführung ne saurait marquer une quelconque Wiedergutmachung, une quelconque réparation. La Strait n'est pas le chemin préalable à l'oubli ou à la conciliation de la Shoah. Elle est le rappel de l'impitoyable nécessité qui a contraint la parole du poème à se confronter à l'angoisse, angustia, d'un cheminement qui est le contraire absolu du cheminement de ceux, qu'ils fussent poètes ou non, qui cherchaient à oublier. La poétique de la Strait, vous l'aurez compris, est donc la poétique d'une insistance de la mémoire, en même temps qu'une réflexion sur les conséquences qui découlent de cette mémoire pour la conception d'une musique qui, si elle reste avant tout la musique des morts, ne veut plus l'être au sens elle avait pu l'être en 1945 à Bucarest, au moment de la Todesfuge. Bien au-delà de l'aspect musical ou harmonique du langage, elle est l'affirmation, à mon sens profondément anti-heideggerienne, d'une soumission de la dimension ontologique de la parole à sa dimension historique. L'herbe qui a repoussé sur le Gelände d'Auschwitz n'est pas une émanation de l'être, mais le signe du vide, le signe du non-être de ceux qui y ont été exterminés. Tel est le sens du « Es stritt gemäht in ein anderes Bild ». C'est que l'histoire, ce qui veut dire ici la mort, a dévoré l'être et ne revient qu'en tant que signe de sa négation. S'il est possible de parler d'allégorie dans la poésie de Celan, c'est au sens où tous les éléments de tous ses poèmes procèdent de cette négation. Je vous remercie.